vous parler tout à l'heure de quelques points que l'apôtre Jacques énumère concernant la vie chrétienne, des sujets très pratiques. Et ce qui est intéressant, alors c'est pas moi qui ai trouvé ça, hein, j'ai lu ça dans des commentaires, mais on voit que l'apôtre Jacques, qui insiste quand même pas mal sur les œuvres, hein, vous connaissez ce verset, « Si tu as la foi, montre-moi les œuvres », et donc il parle de la vie chrétienne qui doit se voir, parce que, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas des fois certains passages de cet épître, parce que la problématique n'est pas la même que celle de l'épître aux Romains. Dans l'épître aux Romains, Paul parle du salut par la foi, parce que ça nous parle en fait du salut devant Dieu. C'est Dieu qui nous sauve et c'est devant Dieu que nous devons plier le genou. Et donc pour être sauvés, il nous est demandé de croire en Dieu. Donc c'est une question de relation entre lui et nous, on est ennemis de Dieu, et à un moment donné, on devient son ami, non pas parce qu'on est devenu parfait, mais parce que sur le point essentiel où Dieu nous attend, en d'autres termes, c'est « qu'est-ce que tu penses de mon fils ?» et « qu'est-ce que tu crois qu'il a fait pour toi ?» Si nous répondons favorablement à ce que Dieu dit de son fils et de ce qu'il a fait pour nous, nous avons la paix avec Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est d'accord avec Dieu dans d'autres domaines de l'existence, et ça fait partie du processus de sanctification. Il y a peut-être des domaines qui ne seront jamais réglés dans notre vie, mais le canal, si vous voulez, la porte d'entrée, le moyen pour avoir accès à Dieu, c'est d'être d'accord avec Dieu sur un point. C'est ce qui concerne Jésus-Christ, son œuvre et notre état. Et si on est d'accord avec Dieu sur cet état-là, sur ce point-là, c'est-à-dire que si nous croyons Dieu sur ce qu'il dit du péché et ce qu'il dit de son Fils, nous croyons au Seigneur Jésus et donc nous sommes sauvés. Et c'est ce dont Paul parle dans les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Jacques, lui, parle de la vie chrétienne et il dit, alors je paraphrase, mais si tu dis avoir vécu ce que Paul décrit en Romains, montre-moi les œuvres. Il ne dit pas montre à Dieu les œuvres, parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, donc on n'a pas besoin de montrer des œuvres à Dieu. Par contre, moi, comment je peux savoir que quelqu'un est sauvé? Je ne le sais pas à 100%, je sais pas ce qu'il y a dans les cœurs, mais en tous les cas, je suis porté à croire qu'une personne est sauvée, parce que les œuvres qu'elle pratique, et quand je parle d'œuvres, je parle dans le sens le plus général du terme, c'est-à-dire que même de confesser avec notre bouche que le Seigneur est le Sauveur, c'est une œuvre aussi. Voyez, c'est-à-dire que moi, comme je vois pas ce qu'il y a dans votre cœur, j'ai besoin de voir des œuvres dans votre vie. Donc en fait, les œuvres nous justifient entre nous. Elles sont pas là pour nous justifier devant Dieu. Alors, en même temps, ça ne veut pas dire que si vous faites beaucoup d'œuvres par la vue, ça ne veut pas dire que vous êtes aussi spirituel que ça. Vous pouvez avoir d'autres motivations, vous pouvez me tromper, vous pouvez singer la vie chrétienne, peut-être en partie. Enfin, il y a rien de sûr. C'est pas comme l'assurance que Dieu a concernant notre salut. Lui, Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur, donc il n'y a aucun doute. Mais entre nous, il n'y a jamais une assurance complète, mais en tout cas, il y a des indications. C'est pour ça que par ailleurs, les apôtres peuvent dire, si vous voyez quelqu'un pratiquer certaines choses, considérez-le comme un païen. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il n'ait jamais été sauvé. C'est considérez-le comme un païen. Parce que comme on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, les œuvres qu'il manifeste vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc on peut s'interroger. Comprenez le point. Et c'est ce dont Jacques parle. Jacques ne remet pas en cause le salut par la foi. Et d'ailleurs, il parle même de la foi dans son épître. Mais la question est, entre nous, quel est le fondement de notre communion? Je veux dire, c'est parce que nous faisons des œuvres ensemble. On vient ici, c'est une œuvre. On chante à Dieu, c'est une œuvre. On évangélise, c'est une œuvre. On prie ensemble, c'est une œuvre. On travaille à la comptabilité, c'est une œuvre. C'est au travers des actes précis les actes précis que nous faisons, qu'on peut évaluer éventuellement notre foi. De la même manière que Paul va dire, mettons, à Timothée, concernant le choix des anciens. Qui est capable d'être ancien ou pasteur d'une église? Dans l'absolu, personne. Mais Dieu confie quand même cette tâche à des personnes sauvées par grâce, qui ont progressé dans leur processus de sanctification. Et donc, il y a des critères qu'on doit évaluer par la vue. Est-ce que la maison est bien tenue? Est-ce qu'ils sont mariés d'une seule femme? Est-ce qu'ils sont adonnés à la boisson ou pas? Est-ce qu'ils sont colériques ou pas? Est-ce qu'ils sont doués dans l'enseignement? Est-ce qu'ils étudient les Écritures? Donc, il y a des critères, comme pour les diacres d'ailleurs, qui sont pratiquement les mêmes critères. C'est à travers cette liste d'œuvres qu'on peut évaluer si quelqu'un est rempli de l'esprit et apte à conduire une église. Donc ça, si vous voulez, moi, prenons mon cas, qu'est-ce qui justifie le fait que j'ai cette position devant vous? Ce sont mes œuvres. C'est pas simplement un discours en disant, vous savez, je suis pasteur, hein, faut me croire. Non, mais ok, Coco, tu dis ça, mais maintenant, on demande à voir, ce qui est logique. Et je pourrais vous répondre, mais vous avez pas la foi. Ben non, vous avez le droit de pas avoir foi en moi. D'accord? Donc, du coup, comme on ne peut pas se confier en l'homme de façon aveugle, on voit si la vie de l'esprit se manifeste dans la vie d'un individu. Donc, tu dis avoir tel don. Moi, je sais qu'au travers de toutes ces années de pastorat, des gens qui ont pu visiter notre église ou même rester dans nos églises quelque temps vont vous dire, je sais pas, moi j'ai le don. Alors, en général, c'est jamais... J'ai rarement entendu quelqu'un qui me dise, je crois que Dieu m'a appelé au don de service. Jamais entendu. C'est toujours apôtre, évangéliste, pasteur, enfin, c'est toujours des dons de ce type. Mais la personne dit, j'ai un don d'évangéliste. Dieu m'a parlé. Pour moi, je m'en fous complètement que Dieu lui ait parlé. C'est son problème entre Dieu et lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que s'il amène des âmes à Christ. S'il amène des âmes à Christ dans l'Église, oui, c'est un évangéliste. Moi, je peux le certifier. Si on voit, on prend l'empereur du XXe siècle concernant les évangélistes, si on peut parler ainsi, mais Billy Graham, il n'avait pas besoin de dire qu'il était évangéliste, hein, ça se voyait. Voilà, parce qu'il amenait des âmes à Christ. Après, quelqu'un a un don d'enseignement, ça se voit par la manière dont il enseigne. C'est pas parce qu'il dit qu'il a reçu un don d'enseignement qu'il l'a forcément reçu. C'est qu'on doit voir. Si on dit qu'on a un don de service, bah montre-moi comment tu sers le corps de Christ. T'as un don d'administrateur, montre-moi comment tu administres les choses, comment tu les organises. Donc vous voyez, il faut comprendre ça, c'est que les œuvres ne nous justifient jamais devant Dieu. Et même, Jésus va jusqu'à dire dans les évangiles qu'il y en a qui auront soi-disant accompli des miracles, fait plein de choses au nom de Jésus, et Jésus leur dira, moi je vous ai jamais connu. Donc devant Dieu, les œuvres ne veulent rien dire. C'est la foi, c'est la relation avec lui. Ça, on est d'accord. Mais entre nous, comme on n'est pas Dieu et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, la plus grande sécurité qu'on peut avoir, qui n'est pas une sécurité absolue, c'est de regarder aux œuvres. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce dont parle l'apôtre Jacques. Mais ces œuvres, donc... Quand on regarde dans tout le spectre possible des individus, il y a ce dont je viens de parler avec Jésus qui parle de personnes qui ont accompli des œuvres alors qu'ils ne connaissaient pas Jésus et Jésus ne les connaissait pas. Ça, c'est l'extrême. Mais si, donc il n'y avait pas la vie de l'esprit. En revanche, les œuvres que nous sommes appelés à vivre ensemble et à expérimenter ensemble, à pratiquer ensemble, doivent être conduites par l'esprit. Et c'est là où on a besoin d'essayer de discerner certaines choses, que ça soit au niveau de l'Église locale en règle générale, mais aussi en tant qu'individu. C'est que le problème des œuvres, une des pierres d'achoppement par rapport aux œuvres qui sont souvent d'ailleurs le résultat de dons que Dieu nous a donnés, qui sont le résultat d'opportunités que Dieu a permises dans notre vie, mais à un moment donné, il y a un risque, c'est l'orgueil. C'est de croire que finalement on se réapproprie ce qu'on a reçu par grâce et on s'attribue les mérites. Le seul mérite qu'on peut s'attribuer éventuellement, c'est la foi et l'obéissance. Et d'ailleurs, c'est ce qui sera récompensé au tribunal de Christ. C'est-à-dire que Dieu va nous récompenser en fonction des opportunités que Dieu nous aura données. Et en d'autres termes, est-ce qu'on aura accepté le cadeau ? T'as reçu un cadeau d'être membre du corps de Christ et de servir pour le royaume de Dieu, c'est un cadeau, c'est un privilège, c'est un appel. Est-ce que tu as saisi ça? Si tu as saisi ça, ça ne veut pas dire que tu as été parfait dans tout ce que tu as fait, mais tu as conduit ton existence de telle manière à ce que tu sois utilisé par Dieu tout au long de ton existence. Et donc tu auras des récompenses. Tu n'auras pas reçu la grâce de Dieu en vain. Parce que là aussi, recevoir la grâce, c'est pas simplement recevoir de la théologie. Oui, je crois en la grâce. Ah, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que la grâce ? Réfléchissons, qu'est-ce que c'est ? C'est recevoir quelque chose gratuitement. On est d'accord. Donc si tu vis par la grâce, montre-moi ce que Dieu t'a donné par grâce. Là aussi, j'ai besoin d'œuvres, j'ai besoin de voir ce que la grâce fait dans ta vie. Donc, on peut pas dire simplement « oui, j'ai reçu la grâce », mais la grâce de quoi ? Il y a toujours la grâce et un complément. La grâce d'être sauvé, la grâce de servir, la grâce d'obéir, la grâce de discerner les esprits, la grâce de comprendre les Écritures. Donc, marcher par la grâce, c'est pas simplement, vous savez, être en extase, je reçois la grâce, là, et les statues font comme ça, mais nous, non, c'est une vie. Donc, vivre par la grâce, c'est aussi accomplir des œuvres. Par grâce, mais c'est quand même des œuvres. Vous voyez, donc, les œuvres et la grâce, c'est pas en opposition. Je veux dire, si vous prenez, je sais pas, un homme et une femme, que l'on oblige à se marier, comme c'est encore le cas dans certaines cultures, vous leur parlez du mariage, ils vont vous dire c'est pas une grâce. Hein. On m'a obligé, c'était une loi. Et puis vous avez un autre homme et une autre femme qui eux se sont plu, ils se sont choisis, ils ont décidé de se marier, et ils disent c'est une grâce. Mais donc il doit y avoir une différence. C'est-à-dire que dans ce mariage où les gens voient une grâce, ils ont la joie d'être ensemble, ils se plaisent, ils se rendent service, ils s'aiment, ça doit se voir. Si tu me dis que c'est une grâce d'être marié, montre-moi. C'est parce que si je prends, pour exemple, l'homme, hein, si je prends le je vois l'homme en train de tabasser sa femme, il dit, ah, c'est une grâce d'être marié, il y a quelque chose qui va pas entre le mot grâce et les œuvres, il y a quelque chose qui va pas. D'accord ? Mais on est à des fois un peu comme ça dans la vie chrétienne, hein. C'est que on parle de grâce et puis en même temps on fait l'œuvre du Seigneur. Hein. Ben, je vois pas la grâce là-dedans. On peut en parler, mais on n'est pas animé par la grâce de Dieu, on n'est pas fortifié par la grâce de Dieu, on n'est pas sanctifié par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système d'œuvre, sans la grâce et sans la puissance de l'Esprit. Mais pour que la grâce opère, et donc que le Saint-Esprit puisse agir au milieu de nos assemblées et dans notre vie, il faut un ordre. Alors, vous connaissez, je ne vais pas vous le lire, c'est trop long, mais les deux chapitres de 1 Corinthiens concernant les dons, hein, vous avez 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 qui nous parlent des dons de l'Esprit, et puis au milieu, le chapitre 13 qui nous parle de l'amour, ce qui montre bien que l'amour doit être au centre de tout ce que nous pratiquons avec nos dons. Mais là, ce n'est pas le sujet. Mais ce que Paul explique dans le chapitre 12 et 14, il parle des dons, mais il les exprime, ou il décrit ça, en termes d'organisme. Et c'est vrai que c'est différent, un organisme c'est différent d'une structure ou d'une organisation. Mais un organisme est quand même ordonné. Vous comprenez ? Donc l'organisme est différent d'une pure organisation, sinon il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vie de l'esprit, mais c'est pas parce que le corps de Christ est un organisme que c'est l'anarchie. Mon corps est un organisme, mais il obéit à des lois très précises, à un ordre très précis. Chaque cellule a sa fonction, chaque membre a sa fonction. Et c'est ce que Paul dit au sujet de l'Église. Le pied, l'oreille, l'œil, chacun a sa fonction. Donc il faut un certain ordre, et cet ordre est une... D'abord parce que Dieu est sage et c'est bien d'obéir à ses ordres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en français, on a le mot « on donne un ordre pour qu'il y ait de l'ordre ». Et donc il y a bien cette notion d'autorité. C'est qu'il faut une autorité pour qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'il y ait des ordres qui soient donnés pour qu'il y ait de l'ordre dans l'action. Et dans le corps de Christ, Dieu met en ordre les membres du corps de Christ pour que l'organisme fonctionne. Et quand l'ordre est établi, il y a la présence de Dieu qui se manifeste. Par exemple, si vous regardez dans l'Ancien Testament, alors vous pouvez lire ça dans Exode, un peu dans Lévitique, dans Nombre. Lorsque Moïse, selon l'ordre de l'Éternel, organise ou met en ordre avec le peuple le tabernacle, le sanctuaire. Donc il y a différents chapitres. On voit, ou alors quand ils mettent en ordre les tribus pour partir d'un point à un autre, hein, avec un, chaque tribu était classée dans un certain ordre, un ordre autour du sanctuaire. Il y avait quatre tribus aux quatre points cardinaux. Donc à chaque fois, vous aviez de l'ordre. Et quand l'ordre était établi, pas toujours, mais très souvent, la Shekhinah venait, il y avait la présence de Dieu qui se manifestait. De la même manière, lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, donc en dur, là, avec des pierres, à Jérusalem, la Shekhinah est venue, la gloire de Dieu est venue, parce que tout était en ordre, les animaux étaient sacrifiés comme il le fallait, donc comme les animaux étaient sacrifiés comme il le fallait, ça veut dire que vous aviez des serviteurs qui égorgeaient les animaux, enfin, parce qu'il faut penser, de mémoire, je crois qu'ils ont sacrifier 1000 taureaux dans la journée, quelque chose comme ça, et je sais plus combien de brebis et tout. Donc plusieurs milliers d'animaux. Je vous dis pas les canalisations hein, pour que le sang coule. C'était avec les gars qui balayent. Enfin, c'était pour pas qu'il y ait un amas de viande et de bêtes. C'était une sacrée organisation. Il fallait de l'ordre. Et donc il y avait tout. La transposition spirituelle, c'est le corps de Christ hein, qui agissait. Et donc il y avait de l'ordre et ça plaisait à Dieu d'un seul coup. La personne de Jésus-Christ était révélée et vous aviez la gloire de Dieu qui descendait. Et c'est ce que Paul explique aux Corinthiens, c'est-à-dire que les Corinthiens étaient animés de division, hypocrisie, compétition, groupe, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, ce qui fait que c'était un désordre complet. Ne parlons pas de la vie de certains individus qui étaient en désordre aussi. Et donc, comme tout était en désordre, il ne pouvait pas y avoir la vie de l'Esprit. Et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est-à-dire que pour que l'avancement du royaume de Dieu se fasse, il faut que nous recevions la grâce d'agir individuellement, mais aussi corporellement dans ce projet, et on a besoin de l'aide de Dieu. Mais Dieu ne va pas nous aider si c'est en désordre. C'est un peu comme j'imagine un coach dans une équipe ou les parents avec leurs enfants, si ceux qui sont subordonnés à l'autorité ne respectent pas un certain ordre, les conseils ne servent à rien, d'accord ? Il n'y a pas d'unité là. Et là, on a ce principe intéressant aussi, alors n'en faites pas une doctrine pure, mais c'est quand même un principe intéressant dans l'image qui nous est donnée. Je vais lire le passage, ça va être plus simple. Dans Ésaïe chapitre 6, on va lire un extrait. Ésaïe chapitre 6, juste 2-3 versets de ce passage très connu. Donc le prophète Ésaïe est prophète en Israël depuis déjà quelques années. Et à un moment donné, il est dans le temple et il reçoit une vision. Et il est dit ceci, à partir du verset 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Donc trône, ça veut dire autorité. « Et très élevé, c'est-à-dire, on sait que c'est la plus haute autorité qui soit. » Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc là, on a ce principe intéressant. Je ne sais pas comment ça pouvait être possible, d'ailleurs. Mais bon, c'est écrit comme ça. Donc, vous avez un trône. Il y a Jésus, le Seigneur, sur le trône. Et il a une robe. Et le pan de sa robe descend, remplit tout le temple. Alors, je ne sais pas comment ça remplissait le temple. Mais il y avait du tissu. Enfin, voilà, il était noyé dans le tissu, Ésaïe. Et au verset 2, il est dit « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. » Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Donc ils avaient six ailes, ça signifie qu'il y a quatre ailes qui servaient à rien, sauf à cacher quelque chose. Et si je me présente à vous, et que vous ne me connaissez pas, je fais ça, ou même si vous me connaissez d'ailleurs, mais voyez, vous avez du mal à me reconnaître. Vous ne savez pas qui je suis. Là, on ne sait pas. On pouvait pas voir de quel séraphin il s'agissait. Ça nous parle du. Et alors certains y voient le fait qu'ils se cachaient les yeux pour pas voir la gloire de Dieu. C'est faux parce que d'abord les séraphins sont toujours dans la présence de Dieu. Ils sont même là pour protéger la sainteté de Dieu. Donc ils se cachent pas le visage. Eux-mêmes sont parfaits. Donc il n'y a pas de problème relationnel avec Dieu. C'est pas le sujet. Deuxième chose qui concourt à ça, c'est qu'après on va voir qu'ils vont aller chercher les braises pour purifier, donc là où les animaux étaient sacrifiés sur l'autel, ils vont chercher une braise qu'ils mettent sur la lèvre d'Ésaïe pour purifier sa bouche, et donc ils sont conscients de l'œuvre accomplie et de la purification des péchés. Donc il n'y a aucun souci, ils peuvent être dans la sainteté de Dieu et ils peuvent accepter qu'Ésaïe soit aussi. Mais non, ça nous parle du fait qu'ils sont comme anonymes, on ne peut pas les reconnaître. Et d'une certaine manière, c'est dans cette, pas ordre, mais de cette façon-là, avec cette attitude-là que nous devons avoir quand on sert dans le royaume de Dieu. C'est que d'un côté, notre place est importante, ce que nous faisons est important, nous avons de la valeur, et en même temps, on est fondu dans le corps de Christ. On est fondu dans l'œuvre du Seigneur. C'est lui qui a la primauté, c'est pas nous. Et ce qui est intéressant, des fois, on va, mettons, étudier ou lire des versets, ou entendre des messages, où on va entendre parler du repos. Et, donc, vous allez me dire, rien à voir, pourquoi tu me parles du repos maintenant? Vous allez voir. C'est que, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans le repos parfois? C'est à cause de l'orgueil. C'est-à-dire que si je veux me montrer, je vais pas être en repos. Parce que je vais essayer de tout faire pour qu'on me remarque. Et en plus, comme c'est de l'orgueil, c'est insatiable. C'est que même si on me remarque, ça suffira jamais. Faut me remarquer encore plus. Faut que j'aie encore plus d'adeptes. Faut que vous applaudissiez plus fort. Faut que vous soyez encore plus d'accord avec moi. Donc c'est sans fin. C'est pour ça que le diable, il a un feu dévorant qui consume parce que l'orgueil qu'il y avait en lui est insatiable. Ça ne s'arrêtera jamais. En revanche, et c'est pas du misérabilisme, hein. Attention, la vie chrétienne, c'est pas non, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Non, c'est pas ça. Notre vie a de la valeur, sinon Christ serait pas mort pour ça, pour nous. D'accord? Si Christ est mort pour moi, c'est que ma vie a de la valeur, c'est pas la question. Mais après, la valeur, elle est pas dans ma personne uniquement, elle est dans la notion du corps de Christ. Parce que c'est pas que le corps. Bien sûr que c'est le corps, c'est nous, c'est les autres, c'est la communauté. Mais en réalité, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire que lui est la tête, et c'est lui là que j'ai devant moi, aussi. Vous êtes les membres du corps de Christ. Et donc, on se fond là-dedans. Je veux dire, quand si j'ai mal à mon petit doigt, si vous me donnez un coup de marteau sur le petit doigt, c'est tout mon être qui a mal. D'accord, c'est pourtant je sais très bien, je peux localiser la douleur, mais je peux pas me distancier de ce membre. Il fait partie de moi et je sais pas, quelqu'un peut me dire, mais tu sais, tes oreilles, elles peuvent écouter de la musique pendant ce temps-là. Je peux pas écouter de la musique, j'ai un autre souci. Tu peux passer un coup de fil puis appeler un taxi. Je peux pas, j'ai mal. C'est-à-dire que le petit membre, c'est lui qui est handicapé, qui a un souci, mais tout le corps a un souci. Et c'est cette notion dont Dieu parle. Lorsque un membre souffre, tout le corps souffre. Et c'est la comparaison est intéressante parce que si j'ai mal au petit doigt, le pied n'a pas mal. On ne peut pas dire que tout le corps a mal, mais tout le corps ne va pas bien. Et de la même manière, si vous perdez un être cher, vous souffrez, c'est pas moi qui suis en deuil, c'est vous, c'est vrai. Mais le corps souffre avec. Mais pour vivre ça, il ne faut pas chercher à se prévaloir de quelque chose ou à se mettre en avant. Et quand je parlais du repos, c'est que du coup, quand on ne cherche pas à montrer notre face, mais on est caché dans le corps de Christ, c'est beaucoup plus reposant. Parce que on me remarque pas, moi je m'en fiche, c'est le corps de Christ qui m'intéresse. Et où que l'on soit, ici sur une estrade, ou qu'on soit dans un bureau de comptabilité où personne nous voit travailler et personne n'est là pour nous féliciter des heures qu'on passe devant un ordinateur, qui que nous soyons, on participe tous à la bénédiction du corps de Christ. Alors les gens vont dire, oui, mais toi quand même, la position que tu as, quand même, tu as une place d'honneur, c'est vrai, la Bible le dit, c'est un honneur d'être à cette place-là, et il doit y avoir un respect lié à cette autorité communiquée par la parole. Mais imaginons que je sois là, alors oui, j'ai une bonne place, bien sûr, je prêche, et même ce que je dis n'est pas idiot, c'est vrai. Et là, vous êtes en train de bâiller, ronfler, regarder sur votre tablette un film sur YouTube, etc. Vous croyez que je serais content? Alors, je pourrais toujours dire, j'ai fait un super message, mais j'aurais rien vécu en réalité spirituellement. J'aurais paradé. La bénédiction d'être dans ce ministère de pasteur, c'est oui, de pouvoir communiquer des messages, parce que quand on n'a rien à dire, c'est un peu embêtant, donc on est content d'être rempli de la parole de Dieu et d'avoir des choses à dire, ça c'est sûr, hein, il vaut mieux ça qu'être muet, si on est prédicateur. Mais en même temps, il y a une bénédiction qui est associée aussi à la joie, ou au plaisir que les gens ont d'écouter. Et c'est le résultat final qui fait que je suis béni, c'est pas uniquement ma prédication. Donc en gros, j'ai besoin de vous comme vous, vous avez besoin de moi. Au-delà du fait que Dieu travaille aussi dans ma vie par rapport à l'étude de la parole, mais indépendamment de ça, c'est corporellement qu'on fait quelque chose. Imaginons que on fasse une visio sur YouTube, par exemple, enfin, comme c'est la mode en ce moment, enfin la mode, le besoin aussi, et vous ayez aucune indication sur le nombre de personnes qui vous écoutent, qui sont connectées. Vous savez, il y a zéro. Vous faites vos visios, deux fois trois, vous faites des cours, deux, trois fois par semaine, des prédications, puis vous savez rien, il y a pas de retour. Ce serait un peu bizarre quand même, tu vois, je veux dire. Et alors, bah, on va donner le chiffre, d'accord? Zéro personne se sont connectées ce soir. Ça fait deux semaines que c'est comme ça, personne ne se connecte. Tu peux faire des super vidéos, mais le but, c'est que les gens les regardent quand même, tu vois. Et alors, soit je suis orgueilleux en disant « Ah, ils ont raté quelque chose, ils m'aiment pas, etc. » Ou alors, je peux être triste en disant « Mais il y avait des choses là qui auraient pu les nourrir, c'est dommage qu'ils aient pas écouté. » Vous voyez, il y a deux attitudes. Dans tous les cas, même quand on est spirituel, on a besoin d'un retour. Et si on voit par contre 1 million de likes ou autre, ben voilà, on se dit « Ce que j'ai fait a produit quelque chose. » Alors, si je suis orgueilleux, ça peut être un piège, mais si je suis simplement comme les anges, caché là, ma face, c'est pas moi, mais je sais que la parole de Dieu a été diffusée. Et je suis béni de faire ce que je fais. Le but est atteint, si vous voulez. Donc ça, c'est une caractéristique du corps de Christ. C'est-à-dire que si vous avez des anges qui sont dans le temple, rappelez-vous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous, que ça soit en tant que corps ou en tant qu'individu. Ben, faut que ce corps, ce temple, soit en ordre. Et un de ces ordres ou cette manière de vivre, c'est que chacun de nous, on est comme voilà, on a cette face cachée, c'est peu importe qui fait les choses. Bien entendu, on a des rapports personnels, tout, mais au-delà de ça, ce qui compte, c'est on en profite tous, d'accord? C'est une multiplicité des dons et on vit quelque chose d'important. Deuxième chose, on voit que leurs pieds sont couverts par les ailes. Ça part de la marche. Et c'est lié, c'est regardez ce que je fais. Regardez, hein, c'est ma marche, regardez comment je marche, c'est mon défilé, hein, c'est la Fashion Week. Et voilà, c'est moi. Non, là les anges vous couvrent les pieds. On regarde pas à la marche. Et ensuite, vous avez les ailes qui leur permettent de voler. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est des anges. Mais l'application spirituelle, elle est celle-là. C'est qu'en fait, ce qui compte, c'est d'avoir la puissance de Dieu qui nous permette d'opérer dans le temple. C'est ça qui compte. C'est pas qui je suis, moi, ma face. C'est pas regarder ce que je fais, ma marche. C'est simplement, il y a la puissance de Dieu en moi qui me permet dans le temple d'opérer, de bouger, de faire ce que j'ai à faire. Ce qui fait que je suis libre et en même temps cadré. Parce que je suis cadré par la puissance de Dieu. Je suis animé par la puissance de Dieu. Ce même Ésaïe dira plus tard, vous savez, ceux qui marchent avec Dieu, ils sont comme les aigles, et ils s'envolent, ils sont comme des jeunes adolescents. C'est-à-dire que c'est la puissance de Dieu. On est actif, on fait des œuvres, et en même temps, c'est pas nos pieds qui opèrent, c'est pas simplement notre personne qui est mise en avant, c'est la gloire de Dieu qui fait qu'il y a la puissance du Saint-Esprit en nous, et c'est l'Esprit de Dieu en nous, dans le corps de Christ, qui peut se manifester et qui exalte la personne de Jésus-Christ. Et c'est bien de revenir des fois à ces fondamentaux-là, c'est-à-dire que on peut être pris dans le quotidien, je parle dans l'Église, j'ai tel ministère, je fais tel si, je fais ça, mais de penser au-delà de ce qu'on fait. Moi je sais que est-ce que c'est le premier service? Oui, pratiquement. J'ai dû peut-être donner un coup de main une fois ou deux comme ça, mais je parle du premier ministère qu'on m'a confié, où j'étais responsable d'un département et de façon suivie. C'était quand je suis arrivé au dortoir à Nîmes, dans le cadre de l'Institut biblique. Et on m'a confié, à l'époque, le département cassette. On avait des étudiants à distance. Et donc, j'étais en charge de m'occuper de la duplication des cassettes. Donc vous aviez l'original qui avait été enregistré, le cours, et puis j'avais un appareil où en 2 minutes, vous pouviez dupliquer 3 cassettes. Donc vous attendiez 2 minutes, puis après vous faisiez les colis, le timbre. C'était pas Internet, hein. Après aller à la poste avec les sacs et envoyer ça partout dans le monde, en Afrique et tout ça. Donc je m'occupais de ça. Et je veux dire, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour faire ce travail. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr non plus, simplement être un peu organisé, mais je pouvais passer à côté de la valeur spirituelle de la chose en disant « je fais les cassettes ». Et pour des gens, c'était leur pain de vie qui arrivait par la poste. Et des fois, je vous dis ça, alors là peut-être ça va parler à certaines personnes, d'un côté on peut pas tout faire parfaitement, d'accord, et en même temps faut chercher à faire les choses parfaitement. Parce que ça mettait du temps pour arriver. Et en plus, en Afrique, des fois, il y avait des colis qui se perdaient, il y en a qui recevaient les cours de la semaine dernière, mais ils n'avaient pas reçu ceux de la semaine d'avant, donc tout était en désordre, enfin c'était compliqué. Et les appareils qui dupliquaient ces cassettes avaient un défaut parfois, peut-être parce que nous, on n'avait pas non plus le matériel dernier cri, c'est que vous enclenchiez la duplication, et parfois la tête d'enregistrement ne collait pas bien à la bande, ce qui fait que la cassette n'enregistrait rien. Donc sur les trois, il y en avait peut-être une où il n'y avait rien. Si vous vérifiez pas, vous avez fait le boulot. Moi, ça a tourné, c'est bon, on met ça dans l'enveloppe. Le gars, il arrive, il est tout content d'avoir son enveloppe, il met la cassette dans l'appareil et... il n'y a rien, le cours, il n'a pas été enregistré. Eh, spirituellement, ça peut avoir un impact. Vous voyez, c'était, en plus, ils avaient des devoirs à rendre, enfin, il y avait tout un travail. C'était un travail spirituel. C'était pas simplement, je duplique des cassettes. Si je regardais à ça, c'est barbant, hein. Alors, il y avait déjà à l'époque les Walkman, on pouvait écouter de la musique en faisant ce boulot-là, mais c'était quand même très limité comme ministère. Mais c'était un ministère hyper important pour l'œuvre du Seigneur dans notre assemblée, que ce soit les cassettes des cultes ou les cours de l'Institut biblique. Et donc, si on ne regardait pas derrière ce qu'on fait, vous voyez, la vision de Dieu derrière, la vision spirituelle, on se dit, mais moi, ma face, on la voit pas, mes pieds, mes œuvres, elles servent à rien. Et du coup, il n'y a plus la puissance de Dieu en nous. On ne vole plus dans le temple. On fait un boulot comme le ferait n'importe quelle personne avec son job pour avoir la paye à la fin du mois. Sauf que là, comme on n'est pas récompensé, on est très frustré. Vous voyez ? Donc, après, on peut multiplier les exemples à l'envi. Donc, de temps en temps, il faut se poser et se dire, mais de quelle puissance je suis animé ? Ou notre assemblée, est-ce qu'il y a la puissance de Dieu dans notre assemblée ? Ou est-ce qu'il y a une bonne puissance humaine ? Dont on a besoin en partie, notamment la disponibilité des êtres humains. Dieu a besoin de nous, hommes et femmes. Mais au milieu de ce canal-là, c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit qui nous permet de faire des choses au-delà de notre entendement parfois, sans trop se fatiguer et dans le repos. Parce que ce que l'on cherche, c'est la gloire de Dieu dans ce qu'on fait. C'est pas forcément ce qu'on fait. C'est pas notre gloire que l'on recherche, c'est la gloire de Dieu, c'est l'avancement de l'Évangile, c'est voilà de manifester autant que faire se peut les richesses de la grâce de Dieu. Vous voyez, cette grâce que nous avons d'être appelés. Donc je dis ça pourquoi ? Parce que alors pour les Corinthiens c'était très évident, mais quand il n'y a pas de l'ordre dans notre vie en tant qu'individu temple du Saint-Esprit que nous sommes, ou s'il n'y a pas de l'ordre dans l'Église, bien entendu, ça plaît pas à Dieu parce que il aime pas qu'on lui désobéisse, on n'aime pas qu'on fasse les choses contraires à sa volonté, il aime pas la chair. Tout ça, c'est correct. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a plus la puissance de Dieu. C'est que Dieu, il s'en va. Il ne veut pas cautionner. Il ne veut pas cautionner quelque chose qui ne lui agrée pas. Si dans l'Ancien Testament, Moïse et ses serviteurs et les architectes avaient fait quelque chose de différent en disant, mais attends, là, il me demande, de faire autour du tabernacle là une barrière là que on cache un peu, donc il y a du tissu, il y a les tringles là, il y a des bouts de bois, et puis il y a des barres transversales en bois. Mais pourquoi il faut mettre de l'argent à l'intérieur ou de l'or? Pourquoi? Ça coûte cher quand même, et on va même pas le voir. Non, il vaut mieux mettre l'or à l'extérieur, le bois à l'intérieur, et on recouvre d'or, c'est plus clinquant. Non, lui, là, les barres, il faut les mettre, elles sont en bois, et à l'intérieur, je me rappelle plus, mais il y a soit de l'argent, soit de l'or. C'est de l'argent et de l'or perdu. Donc je vais faire à l'envers. La gloire de Dieu n'aurait pas pu venir. Pourquoi ? Ça ne représentait pas Christ. Parce qu'en réalité, les montants, là, et cette palissade tout autour, ça part du corps du peuple de Dieu, le corps de Christ, que le monde ne peut pas voir. D'un côté, le monde voit le corps de Christ quand il glorifie Dieu, mais en même temps, il se passe des choses spirituelles entre nous, près du temple, que personne ne peut voir. Le culte rendu à Dieu, la purification de nos péchés, etc. Ce qui fait que ces tentures, là, tout autour, cette palissade, représentent en effet les limites du corps de Christ. Et qu'est-ce qui nous lie les uns aux autres? Ce sont ces barres de bois. Et là, le bois part de l'humanité. Tout comme Christ est venu en tant qu'être humain, mais à l'intérieur de lui, il y avait la nature de Dieu, il y avait de l'or. Nous, nous portons un trésor dans des vases de terre. On a une apparence un peu banale. Et donc, qu'est-ce qui nous lie? C'est notre humanité apparente. Mais en réalité, à l'intérieur, c'est la divinité de Christ qui nous lie. Mais ça, ça se voit pas. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que ça n'est pas là. C'est-à-dire que la vie de Dieu est là et elle coule, elle se répand, elle nous lie et ça forme là un corps, une protection. Et ensemble, on loue Dieu à l'intérieur, mais notre relation, c'est du bois en apparence. Nous sommes des êtres humains faibles, imparfaits, mais au fond de nous, on a reçu tous le Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous lie. Et si Moïse ou d'autres avaient fait les choses à l'envers, humainement, ça aurait été très logique. Et on a de l'or qu'on a donné en plus, parce que c'était suite aux offrandes du peuple. Et on va montrer, regardez notre Dieu, c'est clinquant, hein, il y a de l'or. Parce que tous les palais, c'était comme ça, toutes les idoles. Il fallait montrer ça, les richesses. Quand vous regardiez le tabernacle, il n'y avait rien de très clinquant. Les pots, les tentures qui recouvraient le tabernacle, il y en avait quatre. La quatrième au-dessus, c'était de la peau de dauphin, un peu grise. Ce fait que les armées étrangères, quand elles regardaient le peuple de loin, en disant « ils adorent là-dedans », mais ça avait pas de sens. Tout comme Jésus, son apparence était banale. Il n'était ni beau ni laid, il était quelconque. Et pourtant, c'était Dieu incarné, celui qui a créé les cieux et la terre, qui d'un souffle peut appeler des myriades d'anges, qui a parlé et les galaxies ont été créées, et il était sur la terre, là, comme un bout de bois sur la terre, dans son humanité. Mais pourtant, il glorifiait le Père dans sa faiblesse. Et c'était l'ordre de Dieu, c'était la manière de Dieu, c'était l'humilité de Dieu qui se manifestait. Et donc, je vous encourage, je ne vais pas faire plus long, j'avais d'autres choses à parler sur Jacques, mais j'ai envie d'en rester là et de vous dire, on a un privilège extraordinaire d'être participant à la nature divine, et si on le veut, de pouvoir bâtir avec Jésus-Christ son Église. Mais c'est son Église. Et d'un côté, on va être des ouvriers inutiles, et de l'autre, on va être des ouvriers récompensés, si nous marchons dans la plénitude de l'Esprit. Et qu'est-ce qui va nous faire du bien dans notre ministère? Je parle l'intérêt personnel, non pas égoïste, mais les bénédictions qui découlent d'une marche avec Dieu. C'est la puissance de Dieu dans notre vie. La puissance de Dieu contre le mal, contre les tentations, contre le péché, contre les accusations, contre le découragement. Toutes ces choses-là, des choses que la nature humaine peut normalement ne pas faire, mais il y a la nature divine en nous. Il y a comme des ailes qui nous font voler. Et en fait, notre monde, il n'est pas ici. Il est dans les cieux. Et c'est un encouragement extraordinaire. Et du coup, ça nous aide à pouvoir nous effacer. On ne me remarque pas. Et alors ? Vous savez, j'aime cette image de mémoire, je raconte histoire, mais vous avez entendu parler du prédicateur Charles Spurgeon. Charles Spurgeon était né en Angleterre dans un contexte culturel où le christianisme prévalait. Ce qui fait qu'il avait toujours été à l'église, il a été éduqué dans une famille chrétienne, mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il était sauvé. Et un jour, il devait se rendre à l'église, je crois. Mais c'était à la campagne, et il y avait le mauvais temps, il n'a pas pu y aller. Il s'est retrouvé dans un bâtiment où il y avait un culte. Et il était sous les escaliers, vous savez, vous aviez comme des gradins, et il était derrière les gradins, enfin en dessous des gradins, et il a simplement entendu une prédication. C'est que le prédicateur n'a même pas vu rentrer Charles Spurgeon. Et je ne sais pas quel âge il avait peut-être une vingtaine d'années, il allait commencer ses études, vous voyez. Et il a écouté la prédication et il s'est converti. le gars qui a prêché, et Spurgeon le dit, il n'a jamais su après, il n'a jamais su ça. Le gars, il a fait un message comme d'habitude. Il s'est peut-être pas rendu compte que ce jour-là, sa prédication, par la grâce de Dieu, a amené une personne à se convertir et c'est devenu Charles Spurgeon. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans la faiblesse humaine, dans une petite grange de campagne, un gars qui est perdu au milieu de la, à cause de la pluie qui est là, écoute un message de plus, pourquoi celui-là ? Et l'autre, il en prêche un, pourquoi celui-là ? Et il y a une rencontre, là, il y a Dieu qui fait quelque chose et qui change le destin d'un individu qui lui-même, pas lui, mais Dieu va utiliser cette vie pour changer le destin d'autres individus. On n'a pas idée, en fait, de ce qu'on peut faire. On n'a pas idée des petites graines qui sont en nous et qu'on peut semer. On n'a pas idée. Mais quand on ne cherche pas sa propre gloire, on va être peut-être triste que les graines ne portent pas plus de fruits. Mais ça reste le problème de Dieu. On fait ce qu'on a à faire. On fait ce qu'on croit être bien. On se remet en question s'il faut, mais on avance. La plus grande frustration, c'est quand l'homme orgueilleux n'est pas exalté. Et là, même si ça marche, il est toujours frustré, le gars. Il sera insatiable. Non, c'est de dire, Seigneur, je suis ce que je suis par ta grâce, et cette grâce, je vais la manifester. Ça produira ce que ça produira. Mais moi, je sais que je suis dans ta volonté, et les choses sont en ordre. À l'un est donné le don de service, à l'un le don d'administration, à l'un le don d'enseignement, à l'un le don de connaissance, à l'un le don de discernement des esprits, etc., etc. Voilà, c'est la pluralité du corps de Christ, mais on est tous un, et on n'est pas liés par nos dons, on est liés par Christ en réalité. Et de façon invisible, on est liés, et il y a comme un rempart qui se lève, et on est protégés les uns les autres par l'amour de Dieu, et par les bienfaits de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.